Bonsoir à tous ceux qui nous ont
rejoints. Quel Seigneur extraordinaire nous avons, n'est-ce pas? Quelle grâce d'avoir un Dieu aussi bienveillant, aussi bon, aussi généreux, aussi compatissant, aussi patient, aussi doux, aussi prévenant, aussi respectueux de nos cœurs, de nos vies. Quel Dieu extraordinaire on a. Amen. Jamais dépassé, jamais surpris par rien, toujours au contrôle de toutes choses, jamais inquiet. Un Seigneur qui a une dimension de vie, qui est lui-même la vie, et qui est disposé à déverser en nous tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. On va méditer ensemble la parole de Dieu. Et vous savez que chaque mardi, notre thème, notre méditation, c'est la prière, évidemment. Nous avons beaucoup à comprendre, à apprendre au sujet de la prière, de cette grande thématique, cette demande des disciples à Jésus, « Enseigne-nous à prier ». Oui, alors ça, j'aime beaucoup ce chant, mais je ne vais pas prêcher sur ce chant. Je préférerais PowerPoint, merci d'avance. Vous pouvez ouvrir avec moi, si vous voulez bien, le psaume 63. Si le PowerPoint s'affiche, je fais un tout petit résumé de ce que nous avons vu dans les semaines précédentes, pour ceux qui nous rejoignent. Sinon, on lira le psaume 63 et je ferai un petit résumé après, c'est pas grave. Enseigne-nous à prier, ça s'affiche, merci beaucoup. Est-ce que j'ai la main? Non, par contre, ça s'affiche, mais on a toujours un petit souci pour que j'ai la main au début du message. C'est pas grave, mais au moins le titre déjà s'est affiché. Et dans cette thématique, c'est vrai que nous avons beaucoup, pas seulement à apprendre, mais beaucoup à pratiquer, parce que nous vivons une vie concrète et pratique avec le Seigneur. On a vu, je vous fais un tout petit rappel avec le PowerPoint, et allez, c'est parti, merci beaucoup. On a vu ensemble qu'il est extrêmement important de... Bien sûr, il y a tellement de facettes à la prière, mais on commence par ce qui est peut-être le plus urgent pour nos cœurs, pour nos âmes, c'est savoir de se décharger. Et c'est extrêmement important de comprendre que la prière est un moyen de se décharger, comme le dit Pierre littéralement, de jeter sur Jésus ce qui pourrait nous accaparer et nous empêcher d'avancer. On prie pour se décharger et on a vu aussi ensemble que de faire connaître nos besoins, à cause de la puissance de nos paroles, faire connaître nos besoins, c'est un moyen concret, c'est un moyen très pratique de se décharger au pied du Seigneur. Et puis on a vu ensemble aussi les raisons pour lesquelles le Seigneur, qui sait toutes choses dans sa préscience, nous demande de lui parler de choses dont il a parfaitement connaissance. Et puis la semaine dernière, on n'a pas parlé seulement de nos besoins matériels, mais on a parlé aussi de cet aspect de nos besoins spirituels. Savoir identifier, savoir présenter à Dieu, savoir prier aussi pour des besoins spirituels. Et c'est là qu'on a vu ensemble un besoin peut en cacher un autre, parce que c'est vrai que quand Dieu tarde à répondre dans des circonstances humaines, terrestres, c'est vrai qu'il nous apprend la persévérance, il nous maintient à ses pieds, il nous fait entrer dans son plan, dans son timing. Oui, nous apprenons beaucoup de choses, mais nous apprenons aussi par moments à considérer le besoin derrière le besoin, c'est-à-dire un besoin avec un B majuscule, un besoin spirituel qui est beaucoup plus important et plus urgent pour nous que le besoin terrestre. Mais nous n'en avons pas forcément conscience. Alors du coup, le Seigneur, dans sa grâce, lui, il va comme retenir, le temps va passer, et c'est à nous d'être attentifs, d'identifier les besoins et de dire, mais Seigneur, où est-ce que tu veux en venir? Où est-ce que tu veux m'amener? À quoi peut-être, Seigneur, veux-tu ouvrir mes yeux? Quelque chose que je ne vois pas encore. Et puis c'est là que nous avons considéré ensemble que, oui, dans la Bible, oui, des auteurs l'ont fait, Ancien comme Nouveau Testament, oui, prier pour avoir la lumière de Dieu en soi, prier pour apprendre à voir les choses, les gens, les situations comme Dieu les voit. Seigneur, donne-moi ta lumière, donne-moi ton regard Priez pour de la sagesse, de la patience, de l'amour, de la paix, de l'obéissance, parce que parfois nos véritables et nos plus grands besoins, j'ai reperdu la main, c'est pas grave, ce sont des choses spirituelles. Et on en arrive au besoin ultime, le besoin avec un B majuscule supérieur à tous les besoins, c'est le besoin de la présence de Dieu en nous. Et c'est pour ça qu'on va lire ensemble le psaume 63. On va lire dans son entièreté, puisqu'il n'est pas très long, et vous allez voir, il est extrêmement riche d'enseignements. Psaume 63, psaume de David, bien sûr. Voilà. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps même soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans ta présence, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, parce que tu es mon secours et je suis dans la joie, dans l'allégresse, selon vos versions, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, selon vos versions, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, pardon, je fais juste une toute petite aparté, une toute petite précision théologique sur le verset 12. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. On ne jure pas. On ne promet même pas. Jésus a été très clair. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors qu'est-ce qu'il fait David là ? En réalité, David, il est juste en train d'avoir recours à une facette de la loi de Moïse, parce que dans l'ancienne alliance, il faut juste comprendre, il faut juste savoir, je prends 30 secondes pour ça, que ce soit clair, dans l'ancienne alliance, c'est cette pratique qui avait été instaurée, le fait de jurer, mais ce n'est pas au sens où on le comprend maintenant, le fait de jurer, c'était une façon d'exprimer en réalité, comprenez, la façon d'exprimer sa loyauté envers le Dieu vivant et vrai. On a des références au sujet de cette pratique de la loi de Moïse dans le Deutéronome, dans le premier livre des rois, dans le livre de Jérémie. Si ça vous intéresse, j'ai les références, vous venez me voir, je vous les donnerai. Mais comprenez qu'évidemment, on ne jure pas, on ne promet même pas mon oui et oui, mon non et non. Mais là, simplement, petite précision théologique, il s'agit simplement d'exprimer pour lui, c'est ça que ça signifiait, exprimer sa loyauté envers le Dieu vivant et tout-puissant. Ce contexte de David, le psaume 63, je l'avais ouvert très rapidement il y a 2-3 dimanches pour faire un parallèle avec le psaume 23, mais je n'avais pas eu le temps, il y a trop de choses extraordinaires à voir dans ce psaume, alors je profite d'un moment de prière pour pouvoir l'approfondir. Le contexte, vous le savez, c'est l'adversité, c'est l'oppression, l'injustice et même la menace de mort de son fils Absalom. C'est une des épreuves les plus intenses de la vie de David, on sait qu'humainement parlant, la situation et ici, comme tant d'autres fois, parfaitement tragique, c'est réellement critique. Mais encore une fois, ici, en réalité, malgré la gravité de la situation, David a compris que le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas dans les circonstances extérieures. Oui, certes, la situation est réellement oppressante, mais David sait, c'est ce qu'on a vu dimanche, souvenez-vous, David sait que Dieu a réellement toute circonstance et toute personne, quelle qu'elle soit, sous son contrôle souverain et absolu. Dieu n'est pas seulement omniscient au sens où il sait tout. Dieu aussi est prescient, au sens où il sait tout d'avance, avant que ça n'arrive. Dieu sait. Et là, ce qui peut effectivement me surprendre et m'amener à une réflexion à la lumière de la parole de Dieu, tiens, Dieu savait tout, et pourtant il a permis. Il n'a rien fait pour que ça n'arrive pas. Simon, je sais que tu es plein de bonne volonté et que tu voudrais me suivre sur le chemin de la croix. Seulement, tu ne peux pas me suivre où je vais. Et avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Non, Seigneur, c'est pas possible. Jamais je te ferai ça. S'il fallait mourir, je mourrais. Pierre, je te le dis, tu vas me renier. Le diable vous a réclamé pour vous passer par le crible. Et là, Jésus dit pas, mais t'inquiète pas, j'ai prié pour que ça t'arrive pas. Jésus dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, parce que ça va t'arriver. Il y a toute une pédagogie de Dieu dans l'adversité. Et David le sait, dans ce contexte d'adversité, il sait, comme on l'a vu dimanche, tout est toujours sous le contrôle parfait et souverain de Dieu. Il sait aussi, comme on l'a vu dimanche, que, je fais un petit rappel en même temps, un petit lien avec le message de dimanche, il sait que toute épreuve, quelle qu'elle soit, a nécessairement un terme. Avec l'épreuve, dit Paul aux Corinthiens, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Et puis c'est une occasion aussi, comme on l'a vu dimanche, il sait pertinemment que c'est à Dieu et à Dieu seul d'agir. C'est une occasion pour Dieu d'agir. Et il sait qu'il va le faire. Mais bien sûr, c'est à la fin, c'est après, parce qu'il sait que ce n'est pas ça le problème, il sait que ce n'est pas ça la priorité. Et il parle dans un futur affirmatif, langage imagé. C'est pas que David est plein de haine, il ne souhaite pas de mal à ses ennemis, mais il sait que Dieu est aussi un Dieu vengeur. Il sait que Dieu est patient. Mais quand Dieu règle ses comptes, pas avec ses brebis, hein, pas avec ses enfants, pour ses brebis, le Seigneur, il a une houlette, mais pas de bâton. Le bâton, il est pour le loup, il est pour les mercenaires. Mais il sait pertinemment que quand Dieu, et si vous avez lu l'Apocalypse, quand Dieu va régler ses comptes avec ce monde incrédule, quand la porte de la grâce va se fermer, oui, on peut le dire comme ça, ça va saigner. Mais ce n'est pas une expression. Vraiment, ça va saigner. Parce que Dieu manifestera aussi un jour sa sainte et sa juste colère sur un monde incrédule et rebelle. Et au sujet de ses ennemis, et on le voit aussi dans l'Apocalypse, de tous les auteurs qui ont martyrisé, qui ont persécuté les enfants de Dieu au travers des siècles, il tirera vengeance. Et David le sait, et il dit, ils iront, c'est pas peut-être. Ils iront dans les profondeurs de la terre, c'est un futur affirmatif. Ils seront livrés au glaive. La bouche des menteurs sera fermée, c'est pas peut-être. Dieu va agir, Dieu va faire justice, Dieu va tirer vengeance, Dieu va régler ses comptes quand il le souhaitera, avec qui il devra régler ses comptes. Et le roi se réjouira en Dieu, verset 12. Ce qui me fait dire, à la lumière de ce texte, comme de tant d'autres, qu'en réalité, David a très bien compris que peu importe le problème, en réalité le problème n'est jamais le problème aux yeux de Dieu. Le problème n'est pas le problème extérieur, la circonstance, n'est pas le problème. David, je vous l'ai dit souvent, est un homme qui est profondément conscient, qui dans l'adversité, alors que ça secoue partout, reste parfaitement lucide sur ses véritables besoins. On en a plusieurs, ils sont divers et variés, des besoins spirituels, on a commencé à en parler. Mais il sait que le besoin, avec un B majuscule, le besoin le plus urgent, le plus important, le besoin qui surpasse n'importe quel autre besoin, ce sera toujours Dieu lui-même. Seigneur, c'est toi, peu importe ce que je traverse, peu importe la pression, peu importe l'oppression, je ne veux pas perdre de vue, Seigneur, que mon plus grand besoin, Seigneur, c'est toi. C'est toi et toi seul. C'est toi et personne d'autre. Mon besoin restera, Seigneur, toujours ta présence. Ce sera toujours pour moi, dit David, dans toutes ces... On va voir un petit peu, on va décortiquer le texte. Ce sera toujours, la priorité des priorités sera toujours ta présence. Et en réalité, frères et sœurs, les vrais problèmes, les vrais enjeux, les vrais combats et les vraies victoires se livrent toujours là-dedans. C'est là que se tient le vrai combat.
Et c'est là que l'on remporte les victoires. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et David en est conscient, il est lucide. Donc, il sait que ses besoins intérieurs sont les plus urgents et les plus importants. Vous savez, vous traversez un désert, quelle que soit sa forme dans les circonstances, c'est-à-dire une période de manque. On peut être en manque de biens matériels, on peut être en manque d'un mari, d'une épouse, on peut être en manque de famille, on peut être en manque de santé. Il y a tellement de choses dans l'existence, à des moments divers et variés, qui peuvent nous manquer. Oui, c'est sûr. C'est un désert, mais le plus gros désert, c'est celui qui se crée à l'intérieur, dans l'âme. Quand survient une tempête et que ça commence à secouer dans tous les sens, la plus grosse tempête n'est pas dans le matériel ou dans l'humain. La plus grosse tempête est toujours celle qui a été générée à l'intérieur par la tempête extérieure. La tempête qui va commencer à se lever, à se développer dans mes pensées. Et c'est là que tout va se jouer. D'où la nécessité pour David de chercher Dieu. C'est pour ça, ce n'est pas un hasard. Il a parlé de la vengeance de Dieu sur ses ennemis, mais il a mis ça à la fin. Ils iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés aux glaives. Oui, Dieu agira, toujours comme on le dit, quand il veut, quand il veut. Ça, c'est son problème à lui, je lui remets ça, c'est à lui, ok, c'est à lui de gérer. Mais la première chose qu'il met en évidence, c'est au verset 2, « Ô Dieu, je te cherche. » Je ne cherche pas des solutions, Seigneur. J'en ai besoin de solutions. Mais c'est quand même pas ça que je vais chercher en premier. J'en ai besoin, Seigneur. Tu sais, mon Dieu, il y a bien des points sur lesquels j'aimerais bien avoir des réponses quand même. Et certaines réponses, je les aurai ici-bas. Mais certaines réponses, je les aurai que là-haut. Parce que ça fait partie de ma foi. Ô Dieu, je te cherche. David a bien compris. Et là, il va chercher, et en fait, il va saisir, il va faire de son adversité une opportunité pour chercher Dieu. Je ne dis pas que vous ne le cherchez jamais, je ne dis pas que vous n'avez pas sa présence, je ne dis pas qu'il ne vit pas en vous, je ne dis pas que vous n'avez pas vécu des choses magnifiques avec lui. Je dis que David, avec la communion qu'il a avec Dieu, comme vous et moi on en a une, David va saisir que ce moment, c'est une opportunité pour aller plus loin, pour aller plus haut et pour chercher Dieu comme jamais il l'avait cherché. Et découvrir une dimension de la présence de Dieu qu'il n'avait jamais expérimenté jusqu'à présent. Et là, on se dit, ah quand même, je ne suis pas maso, mais Seigneur, merci pour les épreuves. Parce que là, elles prennent vraiment tout leur sens et elles m'amènent dans des dimensions plus grandes, évidemment, avec Dieu. Plusieurs choses. Le besoin, amen, merci pour les encouragements. Le besoin au-dessus de tous les autres besoins. Vous voyez que dans ce psaume, comme dans tant d'autres, tout est centré, l'attention de David, tout est focus sur la nature de Dieu, sur qui est Dieu. Ce qui le préoccupe, c'est pas ce que Dieu va faire ou pas faire. Il a dit de toute façon, je sais que Dieu est fidèle, il agira. C'est le verset 12. Ça, c'est à la fin. Mais avant, il y a 11 versets pendant lesquels David est focus sur la nature de Dieu et sur son besoin d'aller plus loin dans la communion de ce Dieu extraordinaire. Verset 2, je te cherche, toi Seigneur, c'est toi qui m'intéresse dans l'histoire. Mon âme a soif de toi, mon âme est attachée à toi. Ta bonté vaut mieux que la vie. David ne sait même pas si demain il verra le jour. Si Absalom et ses traîtres l'attrapent, demain c'est fini pour lui, il ne verra peut-être pas le jour. Seigneur, qui tu es, ta nature, en moi, vaut mieux que ma propre vie. Ah non, ça c'était pas, fallait pas faire ça, voilà. Ta bonté vaut mieux que la vie, c'est-à-dire aussi en d'autres termes, ta bonté, la bonté, c'est la nature de Dieu, son amour, sa grâce, sa patience, tout ça, ce sont ses attributs. C'est ce qu'il est, c'est qui il est par nature. Et ici, David recentre tout sur la nature de Dieu. Ta nature, qui tu es en moi, Seigneur, ça me suffit. Alors c'est sûr que c'est un peu de la folie, humainement parlant.
Parce que dans ses circonstances, dans les circonstances qu'il traverse, il n'y a pas grand-chose qui lui dit que Dieu est bon. Et pourtant, il ne cesse pas de rester focus sur la nature de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu est saint. Dieu est paix. Dieu est joie. Dieu est victoire, etc., etc. Tout ça, c'est ce qui est en lui. Et dans cette dimension, verset 4, verset 6, il est pleinement convaincu, c'est ce qu'on a vu dimanche, « Mon âme sera rassasiée, c'est l'être intérieur, rassasiée de mes gras et succulents. » C'est une image, ça veut dire quoi ?« Mon âme est rassasiée de mes gras et succulents, mon âme ne mange pas. » Si mon âme, dans l'épreuve, elle apprend à se nourrir de lui par la foi, et j'apprends à nourrir mon âme, à me combler, à me laisser combler par sa présence. J'élèverai mes mains en ton nom. Ah, j'aime beaucoup celui-là. J'élèverai mon nom, j'élèverai, pardon, pas mon nom, non, surtout pas, pas de ça, Steph, non, arrête. J'élèverai mes mains en ton nom. Merci, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. J'élèverai mes mains en ton nom, vous avez compris. Élever les mains, c'est pas du folklore évangélique. Ce n'est pas un geste pour un geste. Quand ils élevaient les mains, il y a une signification spirituelle. En ton nom, il faut comprendre que dans la pensée biblique, surtout dans la pensée sémitique, le nom est toujours lié à l'identité. Le nom est synonyme d'identité. Les noms de Dieu, El Elyon, Elohim, El Shaddai, Adonai, en hébreu, en grec, les noms de Dieu nous disent qui est Dieu. Aujourd'hui, moi, le fait que je m'appelle Stéphane, ça ne vous dit pas qui je suis. Tu t'appelles Jonathan, ça ne me dit rien sur toi. Parce qu'aujourd'hui, on donne les noms, on donne des prénoms en fonction des goûts, des tendances, des modes, de ce qui nous plaît. C'est comme ça. Mais en réalité, dans la pensée sémitique, le nom est extrêmement important parce qu'il est lié à la personne même. Et Dieu, au travers de ses noms, nous révèle pas seulement ce qu'il veut et peut faire, mais il nous révèle sa nature. Il nous révèle qui il est. Les noms de Dieu nous disent qui est Dieu. Et ici, en réalité, David est en train d'exprimer « J'élèverai mes mains en ton nom, focalisé sur qui tu es. » Seigneur, il est en train d'exprimer son désir d'être en contact, un contact plus proche, un contact plus comme une étreinte, comme un enfant qui va, voyant son père, va élever ses mains pour prendre son père, pour qu'il le prenne dans ses bras. Il y a ce désir d'être dans un contact plus puissant, plus intime avec Dieu. Nous élevons nos mains, c'est-à-dire, Seigneur, nous soupirons après toi. Oui, c'est pas seulement une façon de dire, oui, ça peut l'être aussi, les paumes vers le ciel. C'est comme si je disais, c'est ça que ça veut dire. Seigneur, regarde, dans cette situation, je n'ai rien. Regarde, Seigneur, je ne suis rien. Regarde mes mains, Seigneur, elles sont vides. Ça veut dire, Seigneur, je sais que je ne suis rien. Je sais que je peux rien dans tout ça. Je sais que je peux recevoir de toi. Mais mes mains tendues, ce n'est pas seulement pour prendre quelque chose que l'on me tend, quelque chose que l'on me donne. C'est aussi pour prendre une personne et l'étreindre parce qu'elle a de la valeur pour moi. C'est exactement l'image d'un enfant qui, voyant un gros chien, avec les crocs, un air méchant qui commence à grogner, qui est menaçant, notre papa céleste, il sait très bien, parce que croyez-moi, il tient tous les chiens en laisse, sans exception. Moi, je ne vois pas les dents du chien hargneux. Moi, je vois la main de mon maître derrière qui tient tous les chiens en laisse. Puis il y a des moments, le Seigneur, il permet qu'il y ait certains chiens qui soit un peu plus... Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il voit ça, il va se carapater dans les bras de son père. Et il y a bien des moments, frères et sœurs, c'est juste pédagogique. Le Seigneur, dans certaines circonstances, pardonnez-moi de le dire ainsi, hein. De toute façon, il n'y a plus rien qui vous choque au bout de 2 mois avec moi. Il n'y a déjà plus rien qui vous choque, hein, vous avez compris. J'arrête de m'excuser, ça ne sert plus à rien. Le Seigneur, il lâche un peu les chiens parfois. Peu importe la forme et le nom qu'ils ont, il peut lâcher un peu les chiens. Pour que moi, j'aille me réfugier davantage dans ses bras.
C'est les bras d'un enfant tendu vers son père, vers sa personne. Parce que c'est lui dont j'ai besoin. L'enfant a besoin de son père. La brebis a besoin du berger. J'ai besoin de ce contact. J'ai besoin de ce moment d'intimité. J'ai besoin de cette étreinte. C'est sa présence qui me rassure. C'est le fait d'être tout contre lui, comme on le disait dimanche. Psaume 57, psaume 63 ce soir, pareil. À l'ombre de tes ailes, intimité, protection, confiance. C'est la proximité avec toi, Seigneur. C'est ça qui me rassure. C'est ça qui me comble. C'est de toi, Seigneur, dont j'ai besoin. C'est toi, ma vie.
Beaucoup de déserts, frères et sœurs, ou des tempêtes, ce que vous voulez, beaucoup de déserts, en réalité, sont juste permis par Dieu pour nous permettre soit de trouver un contact, une qualité de contact que nous n'avions pas encore. Et je le redis, je ne dis pas qu'on n'a pas de contact avec Dieu, hein. On est ses enfants, amen. Mais pour trouver un contact qu'on n'avait pas, ou pour retrouver un contact qu'on avait peut-être délaissé, et puis on avait laissé les choses se distendre, pour retrouver cette dimension de présence dans nos vies. En d'autres termes, et si ton désert était juste là pour te faire réaliser ton manque de Dieu? Si seulement Dieu pouvait me manquer, autant que me manque ma famille. Si seulement Dieu pouvait me manquer, si je pouvais ressentir le manque de Dieu dans mon âme. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Si seulement je pouvais ressentir le manque de Dieu, autant que je ressens le manque de santé. Si seulement je pouvais ressentir le manque de Dieu en moi, la façon dont il devrait me manquer, autant que me manquent certains amis, certains frères, certaines sœurs, etc., etc., dans n'importe quelle circonstance. En tout cas, frères et sœurs, une chose est sûre, c'est que Dieu est passionné de nous. Amen. Et que nous lui manquons. Amen. Et si nous savions, si nous comprenions à quel point il nous aime, à quel point nous lui manquons, Dieu fait de nous, il met sa joie en nous, il fait de nous sa joie. Et si on comprenait à quel point nous lui manquons, quand... C'est pas qu'il nous aime pas. Il sait, nous sommes ses brebis. Il l'a dit, il sait ce que c'est qu'une brebis. Et quand nous sommes là, 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 et un petit peu avec toi, Seigneur. Le Seigneur dit, mais je t'aime, je ne cesserai jamais de t'aimer. Mais c'est parce que je t'aime, tu me manques. Tu me manques. Quand je ne suis pas au pied de Dieu, je ne viens pas accomplir un devoir religieux. Vous voyez du légalisme dans le psaume 63? Est-ce que vous voyez du « il faut » Est-ce que vous voyez du « il faut pas » Est-ce que vous voyez Dieu qui regarde David comme ça? Tu n'étais pas là ce matin. Non, j'ai un Dieu qui est fou amoureux de moi. La croix me le dit. Jésus me dit « je suis fou de toi ». Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis fou de toi et que tu me manques? Alors il y a des moments, pour me faire comprendre ce manque, le Seigneur me fait passer par des manques, pour susciter en moi un manque de lui. Et c'est ce que David a compris, j'élèverai mes mains en ton nom, je vais venir te saisir Seigneur, je vais venir te saisir. J'ai besoin de toi Seigneur, je m'en fiche du reste, j'ai besoin de toi Seigneur. Je ne te laisserai pas aller, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour répondre, les mains en ton nom, pour répondre à ton appel, répondre à ton amour, répondre à ton attente, parce que tu me cherches, parce que si David soupire après Dieu, c'est parce que ça fait longtemps que Dieu soupire après David.
Si un jour tu dis, Seigneur, je soupire après toi, avant que tu soupires après le Seigneur, crois-moi, ça fait longtemps qu'il soupire après toi et qu'il soupire après moi. Et ce sont des choses que David, déjà dans l'Ancienne Alliance, avait totalement intégrées, qu'il avait comprises, et qu'il transmet ici une fois de plus, je dis une fois de plus, dans ce psaume. Dieu, lui, il me tend tout le temps les bras. Tout le temps. Sans arrêt. Les mains levées, pas seulement pour dire, regarde Seigneur, mes mains, elles sont vides, je n'ai rien, j'ai besoin que tu pourvoies. Mais aussi, pas seulement pour saisir des bénédictions, mais aussi pour saisir le Dieu de toutes les bénédictions. Amen. Vous voyez la dimension dans laquelle David était déjà à son époque, pour aller plus haut avec lui, pour aller plus loin avec lui. Ça, frères et sœurs, c'est un des objectifs. C'est-à-dire que c'est le seul, il y en a plusieurs, mais c'est un des buts, un des objectifs, un des... Pour quoi, dans quel but? C'est un des objectifs de Dieu, que Dieu vise dans n'importe quelle épreuve, nous amener à nous rapprocher de lui, nous amener plus près de lui. Vous savez, frères et sœurs, l'épreuve, ce n'est pas compliqué. Enfin, elles sont compliquées humainement parlant. Mais dans la pensée de Dieu, l'épreuve, ce n'est pas compliqué, quelle que soit sa forme. L'épreuve, c'est comme une marche. La marche, elle a deux fonctions. Avec une marche, Dieu met devant moi une marche, et comme je l'ai rappelé dimanche, Dieu a mesuré la longueur de l'épreuve, et il a mesuré l'intensité de l'épreuve. Parce qu'il a dit, je te promets, parce que lui a le droit de faire des promesses, tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes forces. Donc il met devant moi une marche. Cette marche, elle a des formes différentes. Pour vous, pour moi, ça s'appelle mon épreuve. Et puis cette marche, dans la pensée de Dieu, c'est juste une façon de monter, d'aller plus loin. Dieu met devant moi des marches pour que cette marche devienne le marchepied de ma foi et que je puisse aller plus loin auprès de Dieu. Et puis le diable, lui, malin et fin stratège comme il est, machiavélique qu'il est, il voit cette marche, il connaît le plan de Dieu pour toi. Et il sait que cette marche, elle est destinée non pas à te punir, mais à te faire aller plus loin avec le maître. Et lui, il va essayer par un jeu de mensonges, de stratagèmes, en essayant même de te faire voir les choses différemment de la parole de Dieu, de faire en sorte que cette marche ne serve pas à monter vers Dieu, mais que cette marche, plutôt, tu te prennes le pied dedans, et puis que tu tombes. Dans la pensée de Dieu, la marche devient le marchepied de ma foi, et je vais plus loin, et je saisis davantage le Seigneur. Et puis dans la pensée de l'ennemi, la marche, je me prends le pied dedans, je tombe, je fais naufrage par rapport à la foi, et puis c'est terminé. Et moi, je suis là. En réalité, j'ai pas de son. J'allais dire, je suis sans son. Non, je suis Stéphane, mais je n'ai plus de son. Et en réalité, je suis là, je suis tiraillé. Je suis entre les deux. Et c'est moi qui choisis. Est-ce que je vais utiliser cette épreuve devant moi pour aller plus haut? Ou est-ce que je vais laisser cette épreuve me faire chuter? C'est moi qui décide. Ici, je vais terminer avec ça, quoique j'ai encore des choses à vous dire. On a l'exemple d'une prière réellement qui est théocentrée. Non pas une prière qui est égocentrée, pas centrée sur le moi et ses besoins. Il y a de la place pour moi et mes besoins, bien sûr. C'est totalement biblique, on l'a vu. Mais là, ici, David a une prière qui est typiquement théocentrée, totalement centrée sur Dieu. Théo, en grec, c'est Dieu. Une prière théocentrée. Et là, il va employer quelques verbes. Je vais insister surtout sur le verbe contempler. Une prière dans laquelle, une vie de prière dans laquelle mon attention, mon regard spirituel, les yeux de mon cœur sont fixés sur le Seigneur, sur sa nature, sur ses nombreuses facettes, sont fixés sur lui, non pas sur moi, fixés sur lui, non pas sur les circonstances. Si vous faites bien attention, vous regardez l'anatomie du corps humain,
Est-ce que je dois couper l'ampli peut-être?
Peut-être, hein. Je garde ça, c'est pour l'enregistrement.
Bon alors, la semaine dernière, il y a deux semaines, on a liquidé un vieil ampli. Là, on a liquidé un vieil ampli. Bientôt, on aura un ampli tout neuf, vous inquiétez pas. Voilà. Par contre, vous ne liquidez pas le vieux pasteur, hein. Je ne suis pas encore assez vieux. Hein.
Ce qui est extraordinaire dans notre anatomie, frères et sœurs, la façon dont le Seigneur nous a fait, c'est que nous ne pouvons fixer, regarder quelque chose, nous ne pouvons fixer notre regard que sur une chose à la fois. On n'est pas des aigles, on n'est pas des poissons, on n'est pas des hiboux. Nos yeux ne font pas ça. On n'a pas un regard à la... Ok ? Je regarde. David ici, lui, il a choisi de fixer ses yeux sur le Seigneur. Ce qui est super bien fait dans mon corps, et c'est la même chose dans la vie spirituelle, parce que Dieu m'enseigne aussi au travers des choses pratiques, c'est que je ne peux pas regarder le Seigneur et vous regardez vous en même temps. Si je regarde en haut, je ne regarde pas en bas. Si je regarde en bas, je ne regarde pas en haut. Si mes yeux sont fixés sur le Seigneur, évidemment, je vois qu'il y a des gens ici. Mais là, rien que, pourtant, vous êtes tout proche, hein, comme parfois nos problèmes, nos ennemis sont tout proches de nous. Mais en réalité, je suis tellement focalisé, mes yeux spirituels sont tellement fixés sur le Seigneur, qu'en regardant ce point ici, et pourtant vous n'êtes pas loin, je suis incapable de vous dire qui est qui, tout est totalement flou, combien vous êtes, j'en sais rien, homme, femme, je ne sais pas, où êtes-vous situé, qui est qui, j'en ai aucune idée. Si je fais ça, tout de suite, c'est clair. Si je fais ça, tout de suite, je ne vois plus mes ennemis, je vois Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés comme ça, et voyez, bien aimé, dans le domaine spirituel, ça marche de la même façon. Je ne peux pas regarder là et regarder là. Je ne peux pas regarder là et regarder là. Je ne peux pas regarder là et regarder là. Il faut que je choisisse. David, lui, il a choisi. Contempler, ô Dieu, verset 3, je te contemple, mes yeux sont fixés sur toi, dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans ta présence, parce que mes yeux ne peuvent se fixer qu'à un seul endroit. À la fois, c'est pédagogique et c'est exprès parce que Dieu m'amène ainsi. Je sais que c'est super dur. C'est une des choses les plus difficiles à faire. Ça se situe en quelques mots. C'est tout un apprentissage et c'est tout un enjeu, tout au long de ma vie chrétienne. Cinq mots, super simples, super durs. Garder mes yeux fixés sur Jésus, ça fait six mots. Garder mes yeux fixés sur Jésus. C'est super simple à dire, mais dans la pratique. Pourtant, David, je te contemple dans le sanctuaire. Ce qui va m'amener nécessairement à détourner mon regard de moi, détourner le regard des ennemis, des situations, détourner le regard des autres, des circonstances, des problèmes. Ce qui est important aussi de comprendre, je vais terminer avec le regard aujourd'hui, on parlera du reste la prochaine fois. Ce qui est important de comprendre avec le regard, c'est que premièrement, il ne peut se fixer qu'à un seul endroit en même temps. Le deuxième principe avec le regard, c'est que votre regard, j'aurais dû l'inscrire ici au tableau, votre regard conditionnera toujours votre direction. Votre regard détermine votre trajectoire. Quand vous êtes en voiture, alors que vous roulez, si vous faites comme ça, naturellement la voiture elle va faire comme ça. Si vous regardez par là, naturellement la voiture elle va faire comme ça. Ça je l'ai compris réellement un jour dans un stage de pilotage. Je vous donne une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une vraie expérience. J'étais dans la police, je travaillais dans une banlieue bien rigolote, chaque nuit, en banlieue parisienne.
Et puis, le divisionnaire qui était responsable de cette circonscription à un moment, il en a eu un petit peu marre, il a estimé qu'il y avait un peu trop de véhicules cassés dans les chasses, dans les poursuites, etc., etc. Donc, il commence à prendre des fonctionnaires, pas ceux qui avaient cassé des voitures, tous au fur et à mesure, et il nous dit, maintenant, ça va être stage de pilotage obligatoire, je veux que vous sachiez conduire beaucoup mieux, vous allez faire des stages de conduite sécurité, vous allez faire des stages de conduite rapide pour apprendre à maîtriser votre véhicule en toutes circonstances. Ok, monsieur le divisionnaire, un jour vient mon tour, je suis détaché de ma brigade, et puis je vais passer 2-3 jours en stage de pilotage. Et puis, je me souviens, le moniteur, à un moment, alors qu'on avait fait de la théorie, qu'il nous avait expliqué beaucoup de choses sur l'inertie du véhicule, ceci, cela, beaucoup de théories, puis à un moment, il faut passer à la pratique. Donc, il se met dans le véhicule à côté de moi, et puis, il y avait une piste avec 2 rails, et les rails, ils finissaient par se resserrer comme ça. Il y avait juste de quoi faire passer la voiture, il n'y avait même pas 50 cm de chaque côté. Puis, au bout de quelques mètres, comme ça, il y avait un énorme bloc de paille en face et juste de quoi passer la voiture à droite ou la voiture à gauche. C'était très serré, c'était dans un mouchoir de poche. Puis il me dit, vas-y, fonce. Je commence à monter, 100, 110, 120, 130, 140, je monte. Il me dit, quand je te le dis, tu piles et tu choisis. Il dit, c'est comme tu veux, tu vas à droite, tu vas à gauche, c'est ton problème. Mais tu me sors la voiture de cette impasse. Je commence à monter, 120, 130, 140, l'adrénaline, elle monte, je vois le bloc qui se rapproche. Puis maintenant, il me dit, vas-y, pile. Et là, je pile comme il m'avait appris, l'embrayage, le frein, je manœuvre la voiture, et puis je suis là, et la voiture, elle ne va pas dans le sens où je veux, et bam, je me tape le bloc de paille, évidemment, comme tous les stagiaires, on se fait tout savoir, et le bloc de paille, il part. Je dis, ah là, je suis nul. Tout de suite, on fait ça. Hein. Oh, je suis nul, j'y arriverai pas, j'ai pas compris. Il me dit, ah, c'est bon. Déjà, première chose, tu vas aller remettre les blocs de paille, ça va te faire du bien pour ton humilité, va remettre les blocs de paille, comme tous tes petits copains. Puis ensuite, je vais t'expliquer c'est quoi ton problème. Je dis, ah, j'ai rien compris. Non, il me dit, c'est pas ça ton problème. Je suis pas assez doué, j'aurais pas dû faire ce stage. Non, c'est pas ça ton problème. Il dit, t'as juste un problème. Ton problème, écoutez-moi bien, et ce jour-là, j'ai compris, c'était spirituel. Il me dit, ton problème, tu regardes l'obstacle. Je t'ai regardé pendant que tu conduisais. Ton problème, tu n'as pas lâché l'obstacle de vue. Maintenant, on va le refaire, mais tu ne regardes pas l'obstacle. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il y a 2 issues. C'est des mouchoirs de poche, mais je te rassure, la voiture, elle passe. Tu choisis, mais tu quittes l'obstacle des yeux, tu regardes l'issue, et en regardant l'issue, tu vas voir la voiture, elle va sortir toute seule. Je recommence. 100, 110, 120, 130, 140. Puis arrivé à la deadline, ce qu'on appelle la deadline, il m'a dit, vas-y, frais, pile, frais. Et là, je remets toute la technique que j'avais appris depuis 48 heures avec lui. Je remets toute la technique en marche. Et là, heureusement, j'écoute ce qu'il me dit. Et je me dis, faut pas que je regarde le bloc de paille. Et je regarde à gauche, je regarde sur le côté. Et au moment où je regarde sur le côté, instinctivement, je sors la voiture, je touche pas le bloc de paille. Il me dit, tu vois, c'est pas une histoire que tu as fait ça pendant 10 ans, 20 ans, parce que j'ai plus d'expérience que toi, etc. Ton regard déterminera toujours ta trajectoire. Là où tu portes tes yeux, mon frère, ma soeur, c'est là où tu vas aller. Et c'est ça que j'ai compris ce jour-là, spirituellement, ça a été une leçon pour moi. Et après, j'ai vu, j'ai dit, mais oui, c'est dans la Bible. Ève, les yeux fixés sur le fruit. Ève vit que le fruit était bon. Adam, les yeux fixés sur Ève. Élie, étant les yeux fixés sur Dieu, triomphe de 850 faux prophètes. Les yeux fixés sur Jézabel, il va s'enfermer dans une caverne, il demande la mort. Quelques heures après, David, les yeux fixés sur Bathsheba. On connaît la suite. Pierre, les yeux fixés sur Jésus, il marche sur les eaux. Mais quand Pierre commença à considérer que le vent était fort, il a commencé à sombrer. Josaphat, les yeux fixés sur Dieu. Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse, mais nos yeux sont sur toi. et ils expérimentent tous une grande victoire.
Notre regard, frères et sœurs, je vais arrêter là pour là ce soir. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à partager avec vous. On continuera la semaine prochaine. Notre regard détermine toujours notre trajectoire. On comprend que dans cette situation, dans son adversité, David est réussi à bénir, à célébrer le Seigneur dans une joie sincère, on en reparlera. Mais surtout dans son adversité, David a compris que son plus grand besoin, avec un B majuscule, c'était la présence de Dieu. De connaître la présence de Dieu dans une dimension qu'il n'avait encore jamais connue. C'est ce qui l'a poussé à dire « Oh Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi ». Il a cherché Dieu, Dieu s'est laissé trouver. Et l'objectif de son épreuve a été atteint. Il a été fort de la présence de Dieu. Il a été même, je dirais, plus fort que jamais. Parce que nous ne sommes jamais aussi forts que quand nous sommes remplis de la présence de Dieu.
Amen.
Amen. Dieu soit béni. On se recueille ensemble si vous voulez bien. On va prendre encore un temps de prière ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux te bénir Seigneur, parce que aucune épreuve, aucune tentation qui soit survenue n'est en dehors de ton contrôle Seigneur. Tu as promis que jamais nous ne serions éprouvés au-delà de nos forces. Tu as mesuré l'intensité de nos épreuves. Tu en as mesuré aussi la longueur. Et tu nous promets que dans chaque situation, tu as aussi systématiquement prévu l'issue. Permets-nous, Seigneur, donne-nous ce bon sens spirituel en tout temps, en toutes circonstances. Comme David, de savoir discerner aussi où sont nos véritables besoins. Et de ne jamais oublier, Seigneur, que mon plus grand besoin, c'est ta présence. Et que ce que je traverse n'est qu'une marche, un marchepied de ma foi pour m'emmener plus haut. Seigneur, comme David, dans ma difficulté, je veux élever les yeux de mon cœur, les fixer sur toi, élever mes mains en ton nom pour mieux te saisir, pour mieux m'emparer de toi, pour être plus proche de toi. Bénis Seigneur ce soir mes frères, mes sœurs, les bien-aimés de l'Église, des amis qui sont là aussi ce soir. Seigneur, tu les connais. Seigneur, je sais qu'il n'y a rien qui puisse t'échapper. Merci de fortifier nos cœurs, encore par ton esprit. Merci de fortifier nos âmes. Et que Seigneur, nous puissions par ta grâce avoir toujours cette sagesse, ce bon sens spirituel, de discerner ce qui est réellement important dans la vie, ta présence, et que nous en soyons plus bénis que jamais, plus forts que jamais. Seigneur, merci, afin que toutes nos épreuves puissent avoir réellement un sens et nous faire grandir. Merci, Seigneur. Amen.